Bienvenue à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Il va tourner midi 2. Exactement. Une émission présentée par la souche microbrasserie. J'aime donc bien ça, moi. J'étais un fan de microbrasserie, j'étais un fan de bière de micro.
On mange bien à la souche aussi.
Ah oui, aussi.
Ça fait partie des micros que c'est vraiment plaisant à les manger.
Oui, puis les deux sont le fun. Autant celle de Limoilou, tu te retrouves en pleine ville, dans un quartier que j'adore. T'es un peu tout pogné les uns ces autres. Moi, je vais toujours du côté bar en plus. Donc, c'est un endroit super plaisant. Je vais se faire avec mon ami Mathieu, mon ami Jean-Michel.
Tu vas plus à Stoneham ou à Limoilou?
Je vais plus à Limoilou, je te dirais. Mais Stoneham, je suis pas mal égal. Stoneham, je suis pas mal 50-50.
Stoneham,
ouais, exactement.
Après le ski, là, wow.
Oui, oui, oui. L'été aussi, je joue au golf à côté. Donc, après le golf, une petite bière. La poutine là-bas, la souche. Quelle est bonne. Ah, on est content que ça soit présenté par la microbrasserie La Souche. L'émission On en jase, 418-971-1021, évidemment, pour nous joindre. Écoutez-nous aussi via la web radio blvd.fm et vous retrouvez les meilleurs moments de l'émission On en jase et de toutes les émissions qui sont dans la superbe programmation de Boulevard 102.1. Notre application BLVD 101 sur App Store et Google Play Store et twitch.tv/BLVD/FM. Là, Pascal, tu me disais, tantôt, tu me disais un nombre là, qu'on était sur Twitch normalement. Là. On fait-tu monter ça aujourd'hui? Là?
Ben, on peut.
Mais
on
nous
peut.
Voir.
Absolument. Twitch.
twitch.tv/BLVD/FM. Bien sûr.
Antonine est là pour le début d'émission. Alors, manquez pas ça. Trois studios, ça se vaut le détour.
Ben, ça oui, vaut le détour Twitch. On va avoir Alicia Despins, l'ex-conseillère municipale pour Québec d'abord, qui va être avec nous pour sa première chronique politique municipale avec nous. Ça sera une nouvelle chroniqueuse ici à Boulevard à On en jase. On va la faire commenter après les conseils municipaux. Elle a fait des conseils municipaux pendant 8 ans. Elle va être capable, des fois, tu sais, des avis de proposition, des affaires de même que moi, puis toi, on comprend pas trop, là.
Ah, ben, honnêtement, moi, j'ai couvert ça pendant un bout, puis je trouve que c'est souvent un endroit où on rit. Puis je veux pas le dire de façon péjorative. Non, c'est juste que ça peut s'obstiner pour des niaiseries pendant longtemps. T'as des petites perles là-dedans et surtout, tu vois l'attitude de nos politiciens municipaux. Et ça, c'est beaucoup d'informations.
En plein ça. On va avoir Ruba Gazal également, co-porte-parole pour Québec solidaire. On va parler avec elle, entre autres, des migrations. Puis là, il y a une grosse nouvelle aujourd'hui. On va en parler avec Antonine dans le caucus, Jean-François Roberge, qui a justement là, annoncé les seuils d'immigration pour les prochaines années jusqu'en 2029. Mais je veux parler avec Ruba Gazal de son livre « Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs. » Je veux qu'elle nous raconte son histoire personnelle. Une Palestinienne qui est arrivée à Montréal, qui ne parlait pas français, qui a immigré, qui s'est intégrée dans la société québécoise, puis tellement intégrée que s'il y avait un référendum demain matin, elle voterait oui.
Non seulement elle voterait oui, mais elle fait partie des figures de proue. Tu sais, chez Québec solidaire, des fois, le PQ reproche qu'on ne parle pas beaucoup d'indépendance. Mm-hmm. On ne peut pas faire ce reproche-là à Ruba Gazal.
Du tout. Donc, je veux connaître son parcours personnel. Donc, oui, on va jaser un peu de politique, évidemment. On va jaser des seuils en immigration, puis on va parler d'autres choses. On est là-dedans. Mais je veux surtout qu'on connaisse l'histoire personnelle de Ruba Gazal. Tu sais, Pascal, on aime ça, là, moi et toi, mettre l'humain à l'avant-plan. On l'a fait avec Jenny Boutet, infirmière, cette semaine. Oui. Je veux qu'on fasse ça avec Ruba Gazal, même si c'est une politicienne.
Puis en politique, je trouve ça important pour la suite des choses aussi, parce que souvent, on est rendu un petit peu dégoûté par la politique. Quand je vous lis, en tout cas, les auditeurs puis les gens, les votes, ceux qui votent, les électeurs, il manque l'humanité derrière la personne, parce que souvent, vous commencez à tirer sur le métier, sur la profession, sur ce que la politique représente. C'est intéressant de savoir qui est derrière.
Exactement. On va parler de l'humain. Mais avant de parler de l'humain, Pascal, tu m'as fait un petit signe?
Oui, juste dire que il y a la politique en immigration de M. Roberge là, dans les dernières minutes qui est sortie, en fait, une annonce.
Et oui, vas-y, fais-nous la nouvelle. On va justement en parler dans le caucus.
Pour Jean-François Roberge, on a pour une baisse modérée et vise 45 000 par année en termes de gens qui vont venir immigrer de façon permanente ici.
On passe au caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Le caucus Iaccarini du lundi au jeudi à Boulevard, à l'émission On en jase de midi à 12h30. Antonine, tant qu'à avoir eu la nouvelle de Pascal concernant l'immigration, je commencerai avec ceci. Donc, je te poserai cette question-là. Je pense que la CAQ vient de choisir le moins pire des scénarios.
Ouais, écoute, le problème avec les plans d'immigration, c'est que c'est tellement compliqué, puis là, il y a plein d'acronymes, puis il y a plein de subtilités, que c'est un peu difficile de vous encapsuler ça en quelques secondes.
Ouais.
Mais je dirais qu'on prend en considération le contexte actuel. C'est-à-dire que la CAQ avait baissé les seuils en 2019 dans sa planification de l'immigration, de manière assez drastique d'ailleurs. Ça avait créé d'ailleurs quelques enjeux. Après ça, on les a remontés. Au-dessus de 50 000, ça avait fait l'objet de critiques, notamment de la part du PQ. Dans ce temps-là, le milieu des affaires est plus content, etc. Là, on rebaisse les seuils d'immigration. Ça fait plusieurs années que le gouvernement du Québec demande au fédéral d'agir sur certains fronts. Parce qu'on le sait, l'immigration, c'est une responsabilité partagée entre le fédéral et le Québec. Le Québec contrôle un certain nombre de choses, mais, par exemple, les frontières demandeurs d'asile, il y a plusieurs programmes aussi qui sont gérés directement par le fédéral. Donc, il faut s'entendre avec Ottawa. On ne s'entend pas souvent sur les questions d'immigration.
Non, exactement, c'est clair. Surtout pas de l'époque Justin Trudeau. Là.
Non, exactement. On voit qu'il y a eu un petit changement de ton à Ottawa quand même, mais cela dit, on demeure assez loin. Québec fait des demandes régulièrement, notamment de baisser le nombre de demandeurs d'asile et aussi de mieux les répartir à travers le pays. C'est pas facile. Il faut crier très, très fort pour voir des petits changements. Finalement, Ottawa s'est davantage attaqué aux travailleurs étrangers temporaires. On a beaucoup coupé dans ces aspects-là, ce qui n'est pas nécessairement la priorité de Québec. Québec veut baisser l'immigration temporaire, qui se compose d'étudiants internationaux, de demandeurs d'asile et de travailleurs étrangers temporaires. Mais c'est sûr que je pense que si, on le dira jamais comme ça, mais si Québec avait le choix, préférait avoir des travailleurs étrangers plutôt que des demandeurs d'asile. Ouais. Et je le dis là, de manière, c'est pas contre les demandeurs d'asile ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'il y a un aspect moins contrôlé, entre guillemets, moins de sélection quand on parle de demande d'asile.
Un aspect économique aussi au niveau des immigrants temporaires qui vont venir travailler justement surtout en région.
Donc, à partir du moment où Ottawa ne répond pas très rapidement à cette demande-là, ben moi, je vois ce plan d'immigration comme une réaction à ça. C'est-à-dire, bon, ben écoutez, si on n'est pas capable de baisser plus que ça l'immigration temporaire, nous, on va baisser nos seuils de notre côté parce que notre capacité d'accueil, selon le gouvernement de la CAQ, est atteinte. On a des défis, pression sur les services publics, crise du logement, etc. Donc, on va baisser nos seuils d'immigration en conséquence. Et là, la principale nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on met fin au programme Expérience québécoise, qu'on appelle communément le PEC, qui avait été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. et là, on va plutôt miser sur le programme des travailleurs qualifiés. On veut vraiment être en mesure de mieux sélectionner notre immigration économique. Puis c'est vraiment ce que je retiens de l'annonce de Jean-François Roberge aujourd'hui.
Mieux sélectionner par rapport aussi aux compétences de ces gens-là. On passe en immigration permanente de 61 000 personnes immigrantes, nouveaux arrivants qu'on a accueillis en 2025, à un seuil de 45 000, et ça jusqu'en 2029. Tu le vois comment ça? Parce qu'on parlait de 25 000, 35 000 ou 45 000, on a comme choisi le plus haut. Je pense qu'on essaye de satisfaire un peu tout le monde là, dans ce moment de crise avec les médecins et de crise au sein de la CAQ.
Oui, puis il y a des besoins démographiques également. Là. C'est sûr qu'on pourrait toujours faire une surenchère, mais à l'envers.
Ouais,
toujours
oui.
Des plus petits seuils d'immigration, ça serait sans doute populaire, mais à un moment donné, oui, il y a le monde des affaires aussi qu'on veut satisfaire parce que c'est toujours un secteur qui pousse pour davantage d'immigration, mais aussi c'est qu'on a des besoins démographiques. Donc de l'immigration qui parle français, qui obtient des diplômes d'ici, qui est en mesure de se trouver de l'emploi dans des secteurs dans lesquels il y a des besoins. Le gouvernement n'a pas à arrêter cette source d'immigration-là nécessairement. On fait des efforts supplémentaires dans les dernières années pour resserrer les critères en français notamment. Demeure que c'est un enjeu qui est hautement politique. Et que la CAQ a toujours le PQ à côté qui propose d'aller plus loin, de couper davantage. Donc, finalement, la CAQ se retrouve toujours un peu à satisfaire personne, là, comme on le disait tantôt. Pour ce qui est du regroupement familial, il faut savoir aussi, quand on coupe dans les seuils, il y a des gens qui sont déjà un peu dans le système et qui sont en attente. Hein. Et les délais sont extrêmement longs. Le regroupement familial, c'est des très, très grands délais. Et la dernière fois que la CAQ avait baissé les seuils d'immigration, ça avait créé un grand, grand inventaire. Parce que quand on dit « Ah, l'an dernier, on en a reçu 60 000. » En fait, souvent, c'est des gens qui sont déjà là. On ne les a pas reçus. Ils sont admis comme résidents permanents parce que l'immigration, c'est un processus qui est un peu long. Puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a dépassé les seuils dans les dernières années. Donc, on fixait des seuils, mais on ne les respectait pas. Ça, c'est l'autre message du gouvernement du Québec maintenant, c'est « ils seront respecté.
Mais déjà, ça commence à faire jaser. Puis après quelques minutes de l'annonce, on reçoit des communiqués dans notre boîte courriel, des communiqués de tout genre, dont un, immigration, des cibles qui fragilisent le secteur manufacturier. Voilà. Ça commence.
Ça commence et c'est normal. Puis, tu sais, je vais dire les choses un peu froidement, mais si vous êtes du secteur économique, plus il y a de travailleurs disponibles, moins ça coûte cher de payer les gens. Donc,
exactement.
C'est sûr qu'on pousse pour nos intérêts ici. Il faut dire aussi que les maires des municipalités dans les régions, en fait, dans les régions, il y a une demande pour davantage d'immigration.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a quand même 80% de l'immigration qui se rend où? À Montréal, on serait capable. Tu sais, notre capacité d'intégration est quand même un peu plus élevée en région. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas des pions, les immigrants. Tu ne peux pas dire, toi, tu vas aller sur la Côte-Nord, toi, tu vas aller. Ce n'est pas comme
non,
ça que ça,
ça
fonctionne.
Ça se regroupe beaucoup dans les métropoles et avec raison, parce qu'on veut justement retrouver notre famille et retrouver notre communauté qui est déjà installée. Je te fais entendre Jean-François Roberge, ce qu'il a déclaré justement avant de présenter ses cibles.
En très, très grand nombre de toutes ces personnes sur le territoire, bien évidemment, ce n'est pas responsable de tous les enjeux qu'il y a au Québec. Mais ça augmente de manière déraisonnable la pression sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les services publics, sur l'accès au logement, je veux même dire sur l'accès à la propriété. C'est une pression aussi sur le français qui était déjà vulnérable, on le sait tous. Des exemples concrets, par exemple, la présence d'autant de personnes qui sont des immigrants temporaires, résidents non permanents sur le territoire québécois, bien, ça requiert, en termes de santé, au net, plus de 10 000 ressources humaines dans le réseau de la santé. Il faut les trouver, ces personnes-là. Il y a l'enjeu des finances publiques, mais il faut les trouver aussi. En éducation, il y a 62 000 élèves, 62 000 enfants qui sont résidents non permanents. Ça représente un besoin de 4 500 enseignants à temps plein. Est-ce qu'on les a, ces enseignants-là? Il faut se poser la question.
Bon, je veux pas tomber dans l'extrémisme, mais... Bon, on dit que ça me chatouille quand j'entends un discours de même. Parce que je me dis, notre système de santé est mal foutu puis en raison de mauvaises décisions à répétition des différents gouvernements. CAQ, Parti libéral, Parti québécois inclus... Même chose pour le système d'éducation. Et là, j'ai toujours l'impression qu'on essaye de s'en laver les mains en disant « Ouais, mais il y a trop d'immigration, vous savez. » Puis là, ben faut baisser les seuils. Mais en même temps, il y a de la mauvaise organisation en crime. J'haïs ce discours-là.
T'as raison. En fait, on n'a pas besoin des immigrants pour avoir des services publics de chnout.
Ben, c'est ça.
On va se le dire. Là. Mais cela dit, les deux peuvent être vrais en même temps. C'est-à-dire que effectivement, tu regardes des données démographiques. On a une forte augmentation, notamment dans le système d'éducation. Hein. Même le Centre de services scolaires de Montréal, il y a 2 ans, avait sorti des chiffres, le nombre de classes qu'on avait dû ajouter dû aux demandeurs d'asile. Et c'est substantiel. Et c'est vrai que c'est un défi. Mais Jean-François Robert, j'aime bien sortir des données comme celle-là. Je veux pas leur mettre trop en question, mais tu sais, il nous manque tant de personnes dues à l'immigration.
Ben
puis, tu sais, la capacité d'intégration, ça existe. Il faut en parler, mais c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est-à-dire que, par exemple, un gouvernement qui nous dit « ça n'a pas de bon sens, notre capacité d'intégration est atteinte », mais qui coupe dans la francisation. On a vu ça l'année passée. Donc, si tu augmentes les capacités de francisation... Bien, ta capacité d'intégration, elle change. Donc, on a quand même une emprise aussi sur ces éléments-là. Il faut être capable d'en débattre de façon sereine, ce qui n'arrive jamais en politique, évidemment, quand on parle d'immigration, ça part dans tous les sens. C'est des enjeux qui sont légitimes, dont on doit discuter en faisant attention de ne pas déshumaniser les gens puis les stigmatiser puis leur mettre sur le dos n'importe quoi. Mais cela dit, la capacité d'intégration, c'est quelque chose sur quoi on a de l'emprise.
L'immigration devrait-elle être apolitique? J'ai de la misère à ce qu'on fasse de la politique sur l'immigration.
Moi, je veux pas être méchante, mais des fois, la solution à tout, là, comme une baguette magique, c'est de dépolitiser quelque chose. Hein. Mais en même temps, si, par exemple, l'électricité, on va faire un parallèle avec l'électricité. À un moment donné, on a décidé, on va sortir ça de la politique, ça va être la régie de l'énergie maintenant qui va fixer les augmentations, puis le gouvernement va approuver, pas approuver, peu importe. Le but, c'était ça. C'était d'arrêter qu'il y ait des partis qui proposent des affaires qui ne se peuvent pas, là, pendant les campagnes électorales, puis de baisser votre facture d'électricité avant que ce soit une bonne idée, des choses comme ça. Mais en même temps, il y a des défauts à ça. C'est-à-dire, c'est des gens derrière des portes closes qui ne sont pas élus, qui prennent des décisions qui ont des impacts sur les gens.
Oui, c'est vrai, qui ont des impacts sur la société, puis on élit des gens pour justement qui gèrent notre société.
C'est ça. Il n'y a rien de parfait dans la vie. La démocratie, c'est un système bien imparfait, mais qui est le moins pire des systèmes. Cela dit, je pense que régulièrement, il faut s'auto-réguler, c'est-à-dire quand on voit qu'un politicien va trop loin. Utilise pas. Tu sais, François Legault s'est amélioré, honnêtement. La force oui. de se faire dire, ça serait-tu possible d'arrêter de parler des immigrants comme si c'était comme.
Comme s'il était de la chenoute, là.
Oui, puis en termes comptables, tout le temps, c'était très froid. Il s'est amélioré. Je ne dis pas que c'est parfait, puis de toute façon, personne n'y trouve rien de bon ces temps-ci à François Legault, mais il commence toutes ses interventions sur l'immigration en disant, c'est pas contre les personnes. C'est pas... Tu sais, il fait un petit peu plus attention qu'avant.
T'as raison.
Donc, il faut continuer toujours de donner des petites piqûres de rappel à nos politiciens en disant, attention, là.
C'est des gens, ce sont des gens.
C'est des êtres humains, en effet. Carl qui écrit, et pendant qu'il parle de seuil, des Français d'ici déjà travailleurs temporaires travaillent à temps plein, ils se font refuser, ils doivent quitter. Résultat, une collègue et sa famille sont acceptés en Ontario.
C'est tellement fâchant d'entendre des personnes francophones qui travaillent, qui sont intégrées ici, mais qui vont aller en Ontario parce que notre système est tout croche. Et le système, il est tout croche. C'est-à-dire que on a des gouvernements, des partis politiques qui nous proposent des choses. Souvent, c'est paramétrique. On change à tous les 6 mois. Il n'y a pas de prévisibilité. Mm-hmm. On a l'impression qu'il n'y a pas de vue d'ensemble. Et on a l'impression que notre système d'immigration est un peu brisé parce que pendant que ces Français-là s'en vont en Ontario, on n'a aucun contrôle sur tout ce qui est demandeur d'asile. On a des programmes qui sont gérés par le fédéral qui ne répondent pas nécessairement toujours à nos besoins. C'est fâchant, mais il y a tellement de travail à faire en immigration.
En effet, t'as entièrement raison. C'est un dossier qui va continuer justement de faire jaser. Quelque chose qui fait jaser, c'est Pierre Poilievre. Il est à Québec à l'heure actuelle. Et voici ce qu'Éric Lefebvre, un de ses députés, a dit concernant le caucus au Québec qui est derrière Pierre Poilievre.
Ben oui, absolument. Encore ce matin, il y avait des rumeurs de 2 collègues du côté du Québec. Et je leur ai parlé 2 fois plus coûteux qu'aucune. Et il était là ce matin au caucus avec nous. Il était choqué de ces fausses rumeurs-là qui circulent au niveau des collègues québécois. Alors, le caucus du Québec est derrière Pierre Poilievre et uni plus que jamais. Le caucus national également. Alors, nous, on continue à travailler ensemble, en équipe. On sent l'écoute, puis on travaille pour les Canadiens et Canadiennes.
Petite question d'ouverture par rapport à ça, parce que Pierre Poilievre se trouve à Québec en ce moment, au lendemain d'un dépôt de budget, en fait, des libéraux, qui sont assurément leur adversaire politique. Hein. Il va y avoir des questions en chambre. Aujourd'hui, c'est une journée pour ça. Mais le chef se trouve à Québec avec plusieurs de ses députés. C'est rare qu'on voit ça. Est-ce que ça peut nuire dans leur position, puis le fait de questionner ce nouveau budget-là?
Ben en fait, c'est pas si rare hein, que les chefs manquent les périodes de questions. Monsieur Carney manque au moins une période de questions par semaine. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Par contre, je pense que ce que ça met en lumière, c'est à quel point on est vite passé à autre chose sur le budget. 78 milliards, un peu plus que 78 milliards de déficit, et on n'en parle plus du tout. Pourquoi? Parce que Mark Carney a réussi à mettre Pierre Poilievre sur la défensive avec ses histoires. Ben, le député Chris D'Entremont qui a traversé, mais là, les rumeurs qui continuent, c'est du bonbon pour les libéraux. Donc, ça a changé de sujet extrêmement rapidement. Pierre Poilievre est dans une position qui est difficile. Pas parce qu'il va nécessairement... S'il avait son vote de confiance demain matin, il le passerait son vote de confiance. Sauf que là, quand un député qui fait défection, ça ouvre le sentier pour les autres. On a vu à Québec qu'est-ce qui est en train de se passer, puis c'est pas terminé. Bien là, on a un petit peu le même phénomène à Ottawa pour d'autres raisons. Donc, il y a des rumeurs qui continuent de circuler. Ça met Pierre Poilievre sur la défensive. Il est obligé, en passant, il y a une chasse aux sorcières là, en ce moment au Parti conservateur.
Clairement, là, on cherche qui veut partir. Là, il y a un député, j'oublie son nom, dans la région d'Edmonton. On parlait de lui. Là, apparemment, que Poilievre l'a rencontré un à un. Il aurait dit, hey, écoute, mon homme, ça passera pas dans la population, tu vas te faire harceler. T'sais, donc là, on joue dur. Là.
Bien, on met des énergies là-dessus. Le député, c'était Matt Genereux.
Oui, c'est ça, en plein ça.
Et là, on met de l'énergie à essayer de ramener tout le monde, d'appeler les gens, s'assurer qu'ils s'en vont pas, etc. Pendant que tu mets de l'énergie là-dessus, là, mais tu la mets pas sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment très, très dommageable pour Pierre Poilievre. Puis, là, je vais ajouter quelque chose, c'est que si Mark Carney réussit à aller chercher ses 3 députés, il y en a un, il en manque 2 pour avoir une majorité. S'il réussit, là, Pierre Poilievre a un vote de confiance en janvier. Là, les gens se disaient, bon, ben, c'est vrai que j'ai des doutes un peu sur est-ce qu'il a la bonne approche, est-ce qu'il est vraiment premier ministrable, Pierre Poilievre, puis avec ce qui s'est passé dans le podcast où il a dit que Justin Trudeau devrait être en prison si la GRC avait fait sa job, ça a vraiment augmenté ce doute-là. Il y a eu la sortie de Dimitri Soudas, ancien directeur des communications du parti, qui est venu alimenter tout ça. Donc, si les gens doutaient, bon, ils voient un premier député qui s'en va. Là, s'il y en a un deuxième, on va être à un député. Donc là, avant le vote de confiance, tu te dis « Oui, mais moi, je veux-tu donner carte blanche à un chef si on est pour être dans un gouvernement majoritaire libéral? » Là, quand tu sais que tu as des élections qui te pendonnaient à tout instant, tu n'as pas très envie de te partir dans des affaires de course à chefferie.
Ça m'amène justement à ma question. Est-ce que secrètement, il y a des conservateurs qui rêvent à une majorité libérale? Et là, je t'explique. On n'a pas gagné avec Pierre Poilievre alors qu'on était dans le siège du conducteur de façon phénoménale. On a perdu ces élections-là. Là, on dirait qu'on le garde là parce qu'on dit « Crème, il pourrait arriver n'importe quoi, ça nous prend un chef. Ouais. On ne peut pas être sans chef. » Mais en même temps, là, admettons qu'on repart en élection et que les conservateurs gagnent, là, ils ramassent une même bien la bullshit présentement budgétaire. Ils sont aussi bien de ramasser ça dans 4 ans que de le ramasser aujourd'hui.
Ça peut être une raison. L'autre raison, ça peut être parce que peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient mettre un autre chef et qui ont quelqu'un en tête. Là, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'ils ont un Mark Carney dans le chapeau. Pas à sortir. Okay? Il y a eu des rumeurs sur Doug Ford, il y a toutes sortes de... Oui, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de conservateurs qui se disent, je pense que la meilleure affaire, là, ce serait encore de changer de chef. Là. On est passé, on a passé 3 chefs, on va avoir brûlé 3 chefs dans les dernières années. Puis tu sais, à la fin de la journée, ce que ça fait, c'est que ça maintient les libéraux au pouvoir. Il ne faut pas se compter d'histoire. Pendant que le parti conservateur se déchire puis se demande c'est quoi ses positions, puis est-ce qu'on doit être plus populiste, moins populiste, plus gentil, moins gentil, bien c'est les libéraux qui continuent de gagner les élections.
Exactement. Éric Lefebvre avait ceci à dire sur Chris d'Entremont.
Ben écoutez, je vous cacherai pas que c'était une surprise. On a eu sa lettre de démission hier. Monsieur d'Entremont était très déçu de ne pas avoir été nommé vice-président de la Chambre lorsqu'il y a eu un vote à l'intérieur même de notre parti comme membre du caucus conservateur. Alors je savais que sa déception était grande et Monsieur d'Entremont a fait ses choix et ce sera à lui de répondre aux questions.
C'est un frustré ou un lucide d'Entremont?
Ni l'un ni l'autre à mes yeux. Honnêtement, moi, j'y vois de l'opportunisme. Honnêtement, si t'es si frustré que ça... Pierre Poilievre était chef en avril dernier.
Ben oui.
Quand M. d'Entremont a décidé de mettre sa face sur une pancarte dans sa circonscription de la Nouvelle-Écosse...
Ben, c'est parce qu'il s'est imaginé une victoire des conservateurs, puis comme il était vice-président en Chambre, il s'est imaginé un poste haut placé dans le gouvernement.
Mais là, je sais pas ce qu'il a négocié avec les libéraux. Mais quand tu fais défection comme ça, là, quand un élu change de bannière, puis pas passer du NPD au Parti libéral, mettons, c'est pas la même affaire. Passer des conservateurs aux libéraux là, c'est une grande marche.
Oui, parce que là, il y en a plein qui disent « Hey, c'est un budget conservateur, le budget de Mark Carney, il est pas conservateur. »
Non, là, c'est pas conservateur, des déficits de 78 milliards.
Non, c'est ça, juste là en partant, là, c'est pas conservateur.
Donc lui fait un sacrifice, parce qu'il y a toujours un coup politique à changer de parti. D'habitude, là, les députés qui se représentent sous une autre bannière à l'élection suivante, là, ben, ils se font battre. Okay?
Ben oui.
Là, c'est sûr, c'est dans les maritimes. Je veux pas, je peux pas te jurer qu'il sera pas réélu, mais il y a toujours un coup politique. Quand c'est pour des questions de valeur, les gens comprennent.
Un genre de karma qui vient démissionner au provincial qui pourrait aller dans un autre parti.
Ben, il est pas allé dans un... S'il était allé dans un autre parti, là, t'as passé les dernières années à dire que c'était des tabarouettes. Là.
Ah oui.
Honnêtement, t'sais, je veux dire, tu marches sa peinture.
Ça fonctionnerait-tu? Non,
ça marcherait pas. Par contre, mettons qu'on veut trouver des exemples où les gens ont compris. Lucien Bouchard, qui était conservateur. Brian Mulroney en a voulu pour tout le reste sa vie.
Ils se sont réconciliés à la fin de la vie de Mulroney.
Oui, puis en tout cas, c'est pour connaître des amis de M. Mulroney. Je le mets entre guillemets, la réconciliation. Ouais. Lucien Bouchard, René Lévesque était libéral. Il a fondé le Parti québécois. Ça peut arriver, mais il faut que ce soit des raisons de valeur. Là, pour M. d'Entremont, moi, je ne le vois pas. Je trouve que c'est des tractations politiques. Il va avoir un coup pour lui. Il y avait un de ses amis qui est sorti dans les médias cette semaine, un ami qui ça faisait 25 ans là, qui se connaissait, qui a été directeur, en fait, président du Parti conservateur, puis qui disait, honnêtement, je me l'explique pas. Là.
Je comprends pas.
Il n'a jamais posé de questions avant l'élection. Il n'a jamais émis quelques insatisfactions.
Commentaire, puis là, tout à coup, paf, franchit la porte. Il y a une grande détérioration dans le réseau de la santé à l'heure actuelle avec le projet de loi 2. Et là, voilà que l'agence même qui a été créée par Christian Dubé, c'est-à-dire Santé Québec, se retourne contre son propre ministre. On a 27 médecins qui font partie des hauts dirigeants qui ont écrit une lettre à Geneviève Biron où on parle de détériorisation du climat de travail, anxiété et détresse psychologique chez plusieurs cliniciens, difficultés accrues de recrutement et de rétention, démission des leaders médicaux, démobilisation et conséquences directes sur l'offre de services et l'accès aux soins. Il mentionne trop de contrôle engendre souvent l'effet inverse de celui recherché, la démotivation, la rigidité et la perte de sens. L'applicabilité de cette loi nous inquiète grandement. Ça va pas bien pour Christian Dubé, là.
Oupsie! Parce que ça, l'Agence de santé, l'Agence Santé Québec, c'est supposé d'opérationnaliser le tout. Là.
Oui.
Puis là, eux autres, ils disent. Comment ça va bien aller?
Bien, c'est parce que là, eux autres, ils regardent ça et ils font je serais pas capable d'opérationnaliser cette loi-là.
Geneviève Biron, la PDG, se retrouve vraiment présente là, puis l'écorce.
Ah, vraiment?
Parce qu'elle est nommée par le ministre. On peut se compter des histoires. Elle ne peut pas s'aliéner, le ministre. Non, elle va disparaître. C'est ça qui va se passer.
Mais elle est arrivée dans la porte aussi en étant élue, bon, acclamée comme étant la grande Top Gun de la santé.
Et tu as tes 27 directeurs qui ne sont pas contents. Puis les 27 directeurs, c'est ceux qui parlent. Parce que on peut s'imaginer que dans le réseau, il y a plus de gens que ça.
Ben oui.
Ces directeurs-là qui demandent des assouplissements, des gestes d'apaisement, même la suspension du projet de loi. Donc, Geneviève Biron n'avait pas vraiment intérêt à sortir publiquement. Elle l'a fait hier et elle était très, très prudente. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la pauvre?
Elle peut rien faire d'autre.
Donc là, ce qu'elle dit, c'est qu'on est en train d'analyser la portée de la loi.
Mm-hmm.
Et là, j'entends ça puis je me dis, là, vous êtes en train d'analyser la portée de la loi? Fait que ça veut dire qu'ils n'ont pas été consultés plus qu'il faut avant.
On va arriver à 2 semaines du dépôt de cette loi-là, puis je l'appelle maintenant la loi catastrophe, parce qu'écoute, ça pète de partout à l'heure actuelle.
Ben, en fait, ça rajoute à notre impression que ça a été botché. Parce que, je m'excuse, mais les gens qui vont opérationnaliser ta politique, ils auraient dû être partie prenante. Tu sais, je comprends qu'il y a des communications constantes entre Santé Québec et le cabinet du ministre. J'en suis persuadée. Je comprends aussi que c'est au ministre de lancer les orientations avec le ministère de la Santé, puis que Santé Québec s'occupe de tout ce qui est opérationnel. Mais ton armée, là, ton opérationnel, s'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, puis d'où ça vient, puis s'ils n'y croient pas, c'est voué à quoi? À l'échec.
Ben oui, ben là, on a les députés de la CAQ à l'interne qui comprennent même pas c'est quoi cette loi-là. On leur explique qu'ils savent pas comment expliquer ça aux concitoyens. Là, on a Santé Québec qui est censé faire les opérations de ça. C'est le fameux planifier, organiser, diriger, contrôler, le PODC de la gestion de changement. Bien, dans l'organiser puis le diriger, là, c'est censé être Santé Québec. C'est censé être Santé Québec. Ils savent même pas c'est quoi cette loi-là. Là, j'entendais Gaétan Barrette dire tantôt à un ex-médecin, il disait « J'ai participé à 2 webinaires. »
Puis il comprend pas plus.
Je comprends même pas.
Est-ce qu'il doit démissionner, Christian Dubé? Parce qu'il y en a qui disent, bon, c'est plus le gars pour mener la patente, mais en même temps, n'importe qui qu'on met dans ce siège-là en ce moment, le siège est déjà en feu, là.
Bon, le siège est en feu, mais il faut dire que, dans le fond, les négociations avec la FMSQ et la FMOQ, d'habitude, puis on en jasait un petit peu hier, mais d'habitude, c'est le Conseil du Trésor qui mène le bal. Le ministre de la Santé, il participe, mais c'est pas lui qui fait les négociations comme tel. Et quand les choses deviennent vraiment très enflammées, le cabinet du premier ministre, évidemment, est impliqué. Donc, ça sert à rien de faire démissionner Christian Dubé. Cette demande-là, là, elle arrive de François Legault. Tu sais, moi, des fois, ça me fait rire quand les gens disent « on demande la démission de tel ministre ». Comme, vous comprenez que ça ne changera pas le gouvernement et le premier ministre.
Ça
ne changera pas grand-chose. Mais est-ce que le Conseil du Trésor pourrait reprendre, en quelque sorte, un peu plus un rôle de premier plan avec son image de bon cop?
On écoute France-Hélène Durand-Soit, cet effet-là, à l'émission Le Bilan hier sur les ondes d'LCN.
Madame la ministre, je veux bien comprendre, c'est vous qui menez les négociations, les pourparlers. Vous êtes la négociatrice en chef du gouvernement avec les médecins.
Bien, effectivement, le Conseil du Trésor est le négociateur en chef, là, pour le secrétariat du Conseil du Trésor, avec sa négociatrice en chef, a toujours été l'interlocuteur avec les fédérations médicales. Alors, là, on reprend le dossier.
Oui, c'est ça. Vous le reprenez parce que c'est votre collègue Dubé qui a amené...
une voie de passage.
OK. Vous reprenez le dossier parce que c'est votre collègue Dubé qui portait le ballon, là.
Quand on négocie, c'est le secrétariat du Conseil du Trésor. Quand il y a une loi qui est portée par le ministère de la Santé, alors c'est le ministre responsable de ce ministère-là, donc dans ce cas-là, le ministre Dubé, qui portait la loi, qui est la loi 2 actuellement. Là, on est dans une posture où il faut qu'on se rassoie ensemble, il faut qu'on trouve une voie de passage pour calmer le jeu.
Cruella n'est pas dans les bonnes chaussures-là. Là.
Moi, je ne l'appellerai jamais Cruella. On fait pas ça, OK?
OK.
Parce que, ça, sérieusement, j'ai trouvé ça épouvantable que le premier ministre donne cette étiquette-là. Et la pauvre, elle se retrouve avec ça.
Pognée avec ça, sans expérience. T'sais, je veux dire, sans expérience au conseil du Trésor. Exact, elle vient d'arriver. Elle connaît pas nécessairement les dossiers. Christian Dubé et François Legault mettent le feu. Puis là, on s'entend, la loi 2, là, je commence à penser que ça a été rédigé par Christian Dubé et François Legault ensemble. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui le savait. Même pas à Santé Québec, même pas à CAQ. C'est les deux boys qui sont donnés comme mission. Les médecins, on va les mettre main. Oui. On va y casser. Là, ils sont à un an de plus être le gouvernement. Ils ont dit, on se fait plaisir, on les casse.
Exactement.
Mais pendant ce temps-là, ils criffent le système à terre. Un système qui était déjà à terre. Fait que là, pauvre France-Hélène Duranceau qui se retrouve avec ça, qu'est-ce que tu veux?
Mais c'est mission impossible là, pour France-Hélène Duranceau.
C'est impossible.
Et moi, j'ai des sources au gouvernement qui me disent que cet été, puis ça a été confirmé, je le mets entre guillemets, étant donné que c'est pas une partie désintéressée dans l'affaire, par Lucien Bouchard.
Oui.
Qu'on était très proche d'en arriver à une entente, en tout cas avec les médecins spécialistes. Oui. Je peux pas dire pour la FMOQ.
Il l'a dit à deux reprises.
Il l'a dit à deux reprises. Et j'ai des sources qui me l'indiquent aussi, des sources du gouvernement qui me disent on était très, très proche d'en arriver à une entente. Christian Dubé est arrivé dans le dossier, il a mis ses points sur la table, puis ça a été terminé. Puis à deux reprises, ça a fait dérailler un projet d'entente. Est-ce que le projet d'entente était à la satisfaction du ministre puis du premier ministre? Probablement pas. Mm-hmm. C'est ça qui a dû arriver. Il a dû dire non, là, la gang. On contourne encore le problème. Moi, je veux qu'on s'attaque à la rémunération. C'est possible. Mais dans les faits, le Conseil du Trésor était proche d'arriver à une entente. Est-ce qu'on l'aurait aimé, cette entente-là? Je le sais pas. Puis mais tu sais, les médecins spécialistes aussi, ça, c'est l'autre affaire. Les médecins de famille, il y a vraiment urgence, là, parce qu'on a 1 million de Québécois qui n'ont pas de médecins de famille et tout ça. Mais moi, la loi spéciale de tout de suite s'attaquer à la question des médecins spécialistes, là, honnêtement, je ne comprends pas trop.
Et je le répète, cet été, c'était Sonia Lebel à la tête du Conseil du Trésor. Elle avait l'expérience requise. Elle venait de mener de front des négociations syndicales très difficiles.
Ça faisait 5 ans qu'elle était au Conseil
du Trésor. Elle avait réalisé des ententes avec tous les partis syndicaux, tous les domaines d'emploi reliés justement au gouvernement. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Christian Dubé, il n'a pas fait confiance. Puis là, on se retrouve dans cette situation-là.
Il garde son bébé proche. Puis c'est un autre enjeu. Je reviens à Santé Québec, à l'Agence Santé Québec, que moi j'entends dans les couloirs, c'est que une des raisons pour lesquelles Santé Québec ne prend pas son envol, c'est qu'il y a de la micro-gestion en titi de la part du ministre.
Mais clairement, Santé Québec était censé être autonome, puis à chaque fois qu'ils font un geste, le ministre reparle par-dessus.
Bon, c'est ça.
Il n'y a aucune autonomie, c'est juste un autre ministère de la Santé qu'on a créé. Je laisse le mot de la fin à Steve, qui dit c'est Dubé qui s'occupe de l'opérationnel, Duranceau s'occupe juste des dollars et les enjeux sont opérationnels. En effet, donc on va toujours revenir vers Christian Dubé. Antonin Iaccarini, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite un excellent long week-end. Ben, demain, tu es sur RDI. Quand on finit, on te regarde toujours RDI.
C'est un week-end
après.
De vous, mais je veux pas que les gens pensent que j'ai une semaine de 4 jours. Non, là, je travaille 5 jours comme tu travailles
très, très, très fort. On se reparle lundi. Sûrement qu'on aura des développements sur cette loi 2 parce qu'on n'en finit plus d'en parler. Après la pause, Pascal, Alicia Despins vient nous voir. On va parler avec elle justement de ce nouveau conseil de ville. 18 élus de Québec fort et fiers, 3 de respect citoyen. Est-ce qu'elle croit à la collaboration entre respect citoyen et Québec fort et fiers? C'est la question que je vais poser.
Et si oui, comment?
Ouais, c'est ça.
Et si oui, comment? Parce qu'hier, on a annoncé que Éric Ralph Mercier sera du côté de Stéphane Lachance pour la suite des choses.
Je veux l'entendre sur Éric Ralph Mercier. Je trouve pas que c'est un choix judicieux de respect citoyen.
J'ai hâte de voir comment ça va se jouer du côté de l'Hôtel de Ville. Honnêtement,
exactement.
Là, de grosses années à venir.
Oui, on parle de ça avec Alicia Despins immédiatement après cette courte pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission d'En Jase.